Alors, nous allons poursuivre. Et là, pour moi, c'est un événement. C'est quelque chose qui me touche énormément. Hein, c'est de vous présenter Claude Effly. Alors, vous savez, il y a des gens qu'on aime beaucoup, puis ils ne savent pas, surtout quand on ne leur a jamais dit. Alors, je vais vous raconter une anecdote sur comment j'ai rencontré Claude Effly. Il ne le connaît pas l'anecdote. Il ne sait pas que je m'en souviens. C'est il y a 40 ans. Parce que Claude Effly est né à Tourcoing il y a quelques décennies. Donc, il y a 40 ans, j'étais là, et lui aussi. Et c'était à la Bibliothèque nationale, en 68. La Bibliothèque nationale, j'allais dire la vraie, mais l'avant-vraie, hein, sur Saint-Denis, qui s'appelait encore Saint-Sulpice, peut-être même. Hein?
On est devenu national en 67.
Bon, en 67. Ah bon, mais c'était à la bibliothèque, à l'immeuble Saint-Sulpice. Bon. C'était dans un lancement de poésie qui avait lieu, qui était inclus ou qui était autour d'une semaine de poésie. C'est comme ça que je l'ai découvert, une semaine de poésie, donc en 68. Moi, j'étais au lancement de mon professeur de poésie, qui était Noël Audet, qui venait de publier « La tête barbare » aux éditions du jour. Il avait invité ses élèves pour le meilleur et pour le pire. Le pire étant que les élèves, une fois invités, étaient très durs à débarquer autour de ces nombreuses bouteilles de vin dont nous ne connaissions pas encore qu'elles étaient si fréquentes dans ces rendez-vous poétiques. Et c'est Claude Effly qui avait organisé cette première semaine. Et là, je voudrais vous parler de son action et de son caractère. Cette première semaine de poésie québécoise, avant même la nuit de la poésie, où il a été aussi très impliqué, cette première semaine, on le voyait rôder. Lui, il lisait pas de poèmes, lui, il faisait pas de choses. Alors moi, je demande à quelqu'un, après quelques verres de vin, mais j'étais jeune, hein, après quelques verres de vin, je demande à quelqu'un, j'ai dit, c'est qui celui-là? Et puis je l'avais vu, puis j'ai dit, c'est-tu un Français? Et là, la personne me répond, dont je me souviens pas le nom de la personne. Je ne sais pas si c'est un Français, mais en tout cas, c'est lui qui organise tout ça. Je dis, ah bon? Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens derrière la poésie, qu'il y avait du monde qui travaillait. Et avec lui, il faut toujours le découvrir parce que je ne connais pas d'animateur plus discret. Je ne connais pas dans le cheminement de nos interventions poétiques à travers ces 40 années. D'ailleurs, on a évoqué dans l'entrée avec Yolande, qui avait déjà travaillé avec lui au Musée des Beaux-Arts, l'année où il organisait un mois, mais c'était une époque où ça nous semblait presque naturel, mais c'était pas plus naturel que maintenant. C'est qu'il y avait quelqu'un discrètement derrière, et quelqu'un qui travaillait, et quelqu'un qui y croyait, mais avec une générosité permettant, je dirais, toutes nos foleries, hein, y compris de prendre une autre bouteille de vin, mais permettant toutes les voies poétiques, intervenant dans des cafés, dans des bars, dans des lieux, j'allais pas dire plus sérieux, mais enfin plus calmes, dans des musées. Et il y a eu un mois qui s'appelait « Poésie ville ouverte », hein, en 1983. Et pour toutes ces actions discrètes, extrêmement discrètes, j'ai un grand, grand respect pour Claude Effly. Parce qu'il est, dans l'animation de la poésie québécoise, quelqu'un qui y a cru, qui a cru aux échanges interpersonnels, et aussi que les choses doivent avoir un lieu et tout simplement être généreusement à l'écoute de ce qui s'y passe. Et je suis certain qu'il ne pensait pas que j'étais pour dire ça, mais c'est de tout cœur que j'étais heureux de le présenter. Bon, il est né à Tourcoing, je vous disais. Il a rencontré rapidement le groupe de l'Hexagone à Montréal au début des années 50. C'est en 53. Et il a fondé en 55, là, faut me corriger, Claude, à chaque fois que je fais une erreur. En 55, alors, des cahiers de poésie francophone, Périscope. Il a aussi tenu cette correspondance dont on a eu les échos, surtout à partir de 89, là, de vraies lettres à bout portant, la correspondance avec Gaston Miron. Il a aussi dirigé des revues comme Culture Vivante. Et c'est quelqu'un qui a toujours fait un travail dans la marge, mais une marge essentielle et une marge dans le sens le plus vivifiant du terme, accordant une grande importance à l'édition des textes, aux éditions soignées, aux éditions rares, aux gens qui regardent le livre, aux gens qui écoutent. Et dans ma bibliothèque assez délabrée ces jours-ci, j'ai trouvé un recueil, je me souviens très bien, il traînait sur la table chez l'imprimeur, c'est la grande journée des aveux, hein, qui était Ginette Nau, imprimeur. primeur avec Daniel Beaucaire, et je l'avais piqué. Mais j'étais jeune quand même. J'avais piqué le livre qu'il n'avait pas encore fini d'imprimer parce que j'aimais la couverture. Et dans le cas de Claude Effly, c'est toujours quelque chose qui a été important, c'est-à-dire... voilà, parce que c'était argenté et rouge, et j'avais jamais vu ça. Je disais, oh ben non, c'est donc beau, ça. J'allais dire pour un livre québécois. Parce que ça faisait comme une espèce d'édition soignée. Et c'est quelqu'un qui a toujours été très attentif à cet aspect-là, matériel, de la poésie. Et j'avais piqué le livre que j'ai encore. Hein? Alors, je dois avouer que ça traînait à côté des presses. Et il était trop beau pour pas que je le prenne. Il n'était pas encore en vente, hein? C'est ce que je me dis. Il n'était pas en vente. Ah bon.
J'ai dû réécrire tout ça de mémoire.
Oui, le
recueil. J'ai tout refait, tout avait disparu. Rouge de nuit, ça peut
être. C'est ça, rouge de nuit.
De Gilles Boisvert.
De Gilles Boisvert. C'est c'était argenté, hein, aluminium. Et voilà. Et on va continuer dans cet échange en lui laissant complètement la parole, et je vais citer deux lignes de Rouge de nuit qui me semblent représenter quelque chose que je sens dans ce personnage, M. Effly. Un tunnel sous les meutes, entre les rires et la parole. Alors, je vous invite à accueillir et à écouter Claude Effly.
Je serai peut-être moins discret ce soir. Trois petits textes qui sont assez courts, qui ne sont pas très sérieux. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Comme ça? Oui? Bon, d'accord. Une nuit de poésie chez Mademoiselle Bonbon. Apollinaire Plombier. Et comment devenir un grand poète? Oui, tiens, oui, je suis... Voilà, merci Claude. En voyant débarquer chez elle à une heure avancée de la nuit le célèbre poète Minuit Jules, Mademoiselle Bonbon ne peut contenir sa joie. Ah, cher poète, quelle heureuse surprise, quel bon vent vous amène chez moi. Me lirez-vous au moins quelques-uns de vos derniers poèmes? Très cher ami, la nuit vous appartient. Entrez, je vous en prie. Voulez-vous une tasse de café? Avez-vous faim? Désirez-vous manger quelque chose? Ah, merci, mademoiselle, ne vous dérangez surtout pas. Je viens tout simplement vous présenter ma dernière création intitulée Le Nouveau Monde. Et Minuit Jules sort de son cartable une carte de géographie qu'il déplie lentement sous les yeux émerveillés de la jeune femme, une immense carte blanche, absolument blanche. Aussitôt, une violente chaleur envahit le salon et se propage dans tout l'appartement. La température atteint alors un tel degré d'intensité que la demoiselle se voit contrainte de quitter sa robe de chambre. Sans doute éblouie par la feuille blanche ou impressionnée par le silence du poète, Mademoiselle Bonbon ne cessera plus de répéter le mot « grandiose ». Ah, comme c'est grandiose! Décidément grandiose! Grandiose! Et ce mot se répercute de pièce en pièce jusqu'à engendrer une espèce de vacarme insupportable. Mais les événements se précipitent. La malheureuse transpire, suffoque, et la voilà maintenant obligée de retirer sa chemise de nuit. Toute nue, elle cherche à fuir, un soleil de plomb la cloue sur place. Elle appelle au secours, mais pas un son ne sort de sa bouche. C'est la panique. Pendant tout ce temps, insensible à la situation de Bonbon Fondant, Minuit Jules déclare d'une voix neutre : Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Veuillez garder votre sang-froid. Merci de votre collaboration. » Prenant son courage à deux mains, Mademoiselle Bonbon fonce en direction de la salle de bain, mais un vent glacé se met à souffler. Tremblante de froid, désespérée, la jeune femme se précipite dans les bras de Minuit Jules en le suppliant de la réchauffer. Apollinaire Plombier. Vous ne saviez pas qu'Apollinaire avait été plombier. Moi, je le savais. À minuit, réveillé par un coup de téléphone, Gaspard Équateur est convoqué en urgence au Grand Hôtel des Morts. Encore à moitié endormi, Gaspard arrive en taxi pour se présenter à l'entrée d'une maison dont toutes les fenêtres ont été murées. Le portier en tenue d'amiral l'introduit immédiatement dans une immense pièce vide et grise. Au centre du salon, violemment éclairé par les phares d'une automobile, un vieux fauteuil attend l'invité. À l'autre bout, du bout du monde, deux messieurs discutent à voix basse. Sortant de l'ombre, le plus âgé s'avance vers Gaspard, lui serre longuement la main, avant de lui déclarer sévèrement « Monsieur Équateur, vous ne venez jamais à nos soirées de poésie, jamais à nos rencontres internationales, jamais à nos banquets. Cependant, à l'unanimité, le jury du prix Guillaume Apollinaire a décidé de vous attribuer ce prix prestigieux, convoité par les poètes du monde entier. » Pour le moins ébahi, voire bouleversé, Gaspard, Monsieur Équateur, se lève, s'incline, remercie, esquisse un sourire, bafouille quelques mots incompréhensibles et retombe lourdement dans son fauteuil. Comme par enchantement, le portier, l'amiral, entre en scène en portant dans ses bras un gros coffret recouvert d'un cuir rouge sang. Déjà troublé, le lauréat ouvre la boîte et s'étonne de ne point trouver les œuvres complètes d'Apollinaire. Par contre, il découvre une série de gros cartons sur lesquels sont collées de nombreuses figurines coulées dans du plomb. Comme c'est bizarre. Dissimulant sa déception derrière un sourire de circonstance, Gaspard décide soudain de remercier ces deux messieurs en quelques alexandrins fort bien tournés. Avec le portier, le plus jeune de ces deux messieurs s'évanouissent dans l'obscurité. Maintenant seul avec Gaspard Équateur, le président du jury lui confie « Cher ami, saviez-vous que Guillaume Apollinaire exerçait en cachette, bien sûr, le noble métier de plombier ? Il aurait réalisé pour une femme dont il était follement épris une salle de bain cubiste. Un pur chef-d'œuvre. Mon cher ami, si vous parvenez à retrouver cette étonnante et formidable création, je vous fais entrer à l'Académie française. »
Sentant alors monter en lui une ambition toute nouvelle, Gaspard avoue en rougissant « Oui, monsieur, je savais cela et j'ai l'intention de me mettre immédiatement à la recherche de ce chef-d'œuvre inconnu. »
Hélas, mesdames et messieurs, hélas, le coffret sur les genoux de l'heureux récipiendaire du prix devenait de plus en plus lourd, le plomb en doute.
Encore et toujours, ce maudit plomb.
Gaspard Équateur se réveille, son chat ronronne sur son oreille. Toute cette histoire n'était qu'un rêve amusant, sublime, ridicule. Alors maintenant, c'est très important, je tiens à... Comment devenir un grand poète ? Ce matin, à 4 heures, on frappe à ma porte. Je déteste être dérangé quand je prends le premier café de la journée. J'ai besoin d'être seul. Mais comme j'ai reçu une bonne éducation, j'ouvre et je me trouve face à face avec une femme en larmes et gelée jusqu'aux os. Pour la réchauffer, je la prends dans mes bras. Comme elle est belle, pour la calmer, je lui murmure à l'oreille ces jolis vers de Paul Verlaine.
Les sanglots longs des violons bercent mon cœur d'une bergère monotone.
Elle me sourit et me déclare en m'offrant sa bouche « Paul, je t'aime ». Je n'ai pas le temps de lui dire que je ne suis pas Paul Verlaine. Elle se colle contre moi, m'embrasse. Ses lèvres sont glacées mais délicieuses. Je renonce à lui avouer que je ne suis qu'un petit fonctionnaire. Je la dévore des yeux, elle m'entraîne dans son lit, dans mon lit encore chaud, me chevauche en criant « Verlaine, Paul, encore Paul, Verlaine !» Pour en finir avec Verlaine, avec la poésie, je lui récite le bateau ivre. Son regard s'illumine. Bouleversée, elle me déclare d'une voix triomphante « Paul, c'est ton chef-d'œuvre. » Sèchement, je lui réponds « C'est du Rimbaud, ma chérie. » Elle éclate de rire. Se fâche, me reproche de n'avoir pas carrément tué ce salaud d'Arthur à Bruxelles. Je commence alors à détester tous ces poètes connus, inconnus, oubliés. Je m'énerve. Paul, Arthur et les autres, tous à mettre dans le même sac. Le jour se lève et la malheureuse a faim, a soif. Madame me demande de lui servir un café irlandais avec une omelette au jambon et au fromage. Elle précise, du gruyère suisse. Je rate complètement l'omelette, mais le café la transporte au septième ciel. Entre-temps, elle oublie Paul, ne pense plus qu'à Arthur, et soudain, de sa voix la plus douce, cette femme, décidément merveilleuse, me demande « Arthur, veux-tu m'épouser ?»
Merci beaucoup à Claude Effly de nous lire ses inédits.